RMC.
Honorable représentant de la République.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
J'admire la démocratie.
Le Conseil des Grandes Gueules.
J'ai la passion de la République.
Comme tous les mercredis, il y a Conseil des ministres. Comme tous les mercredis sur RMC, il y a le Conseil des Grandes Gueules avec les élus de la République. J'accueille Philippe Doucet, député maire socialiste d'Argenteuil. Monsieur Doucet, bonjour.
Bonjour.
Geoffroy Didier, le conseiller régional d'Île-de-France, UMP, secrétaire général adjoint de l'UMP. Geoffroy Didier, bonjour.
Bonjour à tous.
Et puis, messieurs, accueillez un petit nouveau dans le Conseil des GG. C'est Christian Schuttel. Bonjour.
Bonjour à tous.
Maire UDI de Janvry, c'est dans l'Essonne.
Oui, c'est paumé.
Combien d'habitants? C'est paumé, c'est le maire qui le dit.
Non. Ah oui, 630 habitants, peut-être 631 ce soir.
Alors, monsieur Schuttel, on l'a remarqué parce qu'il défie Vincent Payon. Il ne veut pas appliquer la réforme des rythmes scolaires, les fameux 4 jours et demi à partir de la rentrée 2014. Il estime que c'est pas une bonne réforme. D'ailleurs, que c'est même pas une réforme, c'est un décret. Vous allez vous expliquer tout à l'heure, mais vous défiez toujours. Vous êtes sur votre position, vous changez pas.
Plus que jamais, d'autant plus qu'il y a tellement de maires qui me rejoignent que c'est un vrai bonheur.
Eh oui, eh ben, on sent qu'il y a un mouvement peut-être qui est en train de monter contre cette réforme des rythmes scolaires. On en parlera tout à l'heure. Laissez-moi vous donner le menu de ce conseil des GG. Il y aura bien sûr les trois déclarations choc de l'actualité. Chacun aura droit à sa déclaration et à réagir. Les affaires courantes. On va revenir sur l'écotaxe avec des infos RMC. Visiblement, on est en train de revoir l'écotaxe qui déplaît tant, notamment aux Bretons. Je vous dirai tout à l'heure, vous allez commenter en direct. On a vu hier une image hallucinante également des salariés, toujours en Bretagne, de GAD, entre ceux qui sont pas touchés par la fermeture des abattoirs et ceux qui le sont. C'était quasiment des violences physiques. On a déployé sur place des CRS. La tension aussi sociale peut-être à Gad et ailleurs en France. Les rythmes scolaires donc, ça c'est prévu avec monsieur Schuttel. Et puis le vote du budget, puisqu'hier l'Assemblée nationale a adopté à une large majorité, comme quoi l'affaire Leonarda, ça peut resserrer les rangs, la partie recette du projet de budget de l'État. Les socialistes ont voté pour. Ce sont les impôts qu'on a votés. Visiblement, encore beaucoup d'impôts en plus en 2014. Monsieur Doucet va s'expliquer dans un instant. Mais messieurs, je voudrais qu'on commence par la proposition choc de la semaine, on la doit à Jean-François Copé qui veut réformer le droit du sol.
Il ne s'agit pas de remettre en cause le droit du sol, il s'agit simplement de dire que des parents, des enfants nés en France de parents illégalement installés sur le territoire français ne peuvent pas devenir automatiquement français.
Je suis beaucoup amusée d'entendre M. Copé nous expliquer finalement c'est le Front National qui copiait l'UMP. Ça fait des années donc que nous défendons cette proposition.
Je le dis aussi à M. Copé qui est en train de préparer l'abandon du droit du sol au profit du droit du sang. Ça, ce n'est pas la République.
Un mineur né en France de parents étrangers devient automatiquement français à sa majorité. Ça, c'est le droit du sol. Jean-François Copé veut remettre en cause cette règle pour les enfants clandestins. C'est ça, Geoffroy Didier ?
Oui, et ça fait d'ailleurs plus d'un an que la droite forte, le premier mouvement de l'UMP, que j'ai cofondé avec Guillaume Pelletier, fait cette proposition. Pourquoi ? Parce que depuis l'élection de François Hollande, d'abord, il faut savoir que nous avons une politique migratoire faible et laxiste. Au-delà des coups de menton, des grands discours, des belles interviews de Manuel Valls, elle est faible et laxiste. Une baisse de 40% des reconduites à la frontière des immigrés clandestins. Une augmentation de 40 000 avec la circulaire de Manuel Valls du 28 novembre 2012, 40 000 régularisations et effectivement un boom des naturalisations. Je pense qu'il faut restreindre l'accès à la citoyenneté française. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas de la même logique quand on est à droite et quand on est à gauche. À gauche, on considère que l'acquisition de la nationalité française, c'est le point de départ du parcours d'intégration.
Bah là, c'est,
moi, c'est tout le contraire.
C'est pas le cas.
Je pense
la
que
loi.
C'est le point d'aboutissement
parce
du parcours 18, d'assimilation.
C'est à 18 ans que l'enfant devient
et alors,
français.
On fait une proposition simple, concrète, de bon sens, saine. C'est de dire qu'il n'y a pas de prime à l'illégalité dans ce pays. Et que lorsqu'on est l'enfant de parents venus en France clandestinement, on ne doit pas avoir accès à la citoyenneté française. Vous voyez, je vais même plus loin que Jean-François Copé. Plus loin que Jean-François Copé. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir dans ces cas-là d'automaticité de la citoyenneté française. Moi, je vais même jusqu'à dire que lorsque ses parents sont clandestins, il ne doit pas y avoir de prime à l'illégalité et donc il ne doit pas y avoir la possibilité de devenir français. En revanche, et j'en termine par là, lorsqu'on est l'enfant de parents immigrés réguliers, c'est-à-dire qu'il respecte la loi, à ce moment-là, il y a une possibilité de devenir français, mais encore faut-il le demander.
Donc quelqu'un qui ne devient pas français, simplement parce que vous allez plus loin, pour que je comprenne bien, quelqu'un qui est en situation irrégulière est condamné à le rester durant toute sa vie sur le territoire français, parce que il peut rester très longtemps, il est même souvent embauché par les entreprises au black.
Une personne
qui vient. Il n'y a jamais de chance d'intégration?
Si, une personne qui vient clandestinement sur notre territoire a vocation à être reconduite dans son pays d'origine. S'il veut venir légalement sur le territoire, il repart dans son pays d'origine, il demande le respect, enfin, il demande une autorisation de séjour, et s'il l'obtient et qu'il respecte les règles et les valeurs de notre pays, à ce moment-là, il a le droit de citer.
Philippe Doucet.
Bon, ben moi je vais citer des amis de Geoffroy Didier. Nicolas Sarkozy, entre les deux tours de la présidentielle de 2012. Vous avez fait partie du fan club de Nicolas Sarkozy, vous l'avez même monté.
Je le suis toujours.
Voilà. Nicolas Sarkozy, nous garderons le droit du sol. Le droit du sol, c'est la France. Quelqu'un qui est aussi, qui n'est pas un gauchiste halluciné, Henri Guénaud. Hein,
sur, qui était ce matin avec Jean-Jacques Bourdin
sur BFM et RMC.
C'est bien de citer la maison,
Philippe. Philippe Doucet, il en pense quoi?
Je vais vous répondre. Il ne peut être question d'abandonner le droit du sol. Henri Guénaud qui parle. Hein. Il ne peut être question d'abandonner le droit du sol, d'abord parce que c'est notre culture. C'est le fondement d'une société ouverte par rapport à une société fermée qui est capable d'accueillir, d'intégrer ceux qui souhaitent devenir français. La disparition absolue du droit du sol et l'absolutisme de la préférence nationale, j'y suis opposé, c'est contraire à l'idée que je me fais de mon pays. Voilà. Henri Guénaud.
D'accord, bien. Mais ça, vous citez alors, les gens de droite, ce qui est tout donc, à votre honneur, en tant que député socialiste.
Voilà. Mais chacun sait, tout le monde est d'accord à gauche.
Donc, non mais, attendez, le droit du sol, c'est la France depuis la Révolution française. Parce que la France, c'est pas une identité sur une logique de terre, c'est une identité... L'identité nationale, c'est la République française depuis la Révolution française, avec ce que nous avons au-dessus des frontons.
Non, c'est l'inverse.
Je t'ai écouté attentivement. Donc, ce qui est écrit, liberté, égalité, fraternité, c'est notre système universaliste des valeurs de la République.
Ça n'a rien à voir.
Donc, mais si, c'est ça. Et derrière, donc ça, c'est profondément ancré. Et d'ailleurs, si je suis amené à citer, c'est que ça dépasse largement les frontières
les
de la gauche.
Les monarchistes étaient pour le droit du sol. La révolution était pour le droit du sang.
Non, donc
ça erreur historique. Mais non, Doucet. Non.
Bon, donc ça fait une éternité que c'est comme ça. Donc du coup,
les internautes vérifieront.
Bon, donc dans cette affaire-là, c'est la réalité. Au-delà des rangs de la gauche, c'est le modèle républicain
donc,
depuis longtemps.
Pas touche à ça.
Après, sur deux éléments politiques. D'abord, je m'élève totalement en faux dans ce que Geoffroy Didier évoque sur les chiffres. Sur les naturalisations, ce que nous avons fait, nous sommes revenus à ce qu'il y avait sous Jacques Chirac dans les chiffres de naturalisés, sous Jacques Chirac président de la République, avec Nicolas Sarkozy comme ministre de l'Intérieur, et même au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Simplement, dans les dernières années, les trois dernières années de Nicolas Sarkozy, ils avaient fortement réduit les naturalisations. Nous sommes revenus au rythme antérieur, pas en augmentation, nous sommes revenus au rythme antérieur.
Philippe,
je termine. Et sur les 40%,
vous avez assoupli les conditions de naturalisation en France.
On est revenu à ce qui était la règle républicaine de longues années.
Pourquoi?
Parce que derrière, il y avait une volonté dans la course au Front National de la part de l'UMP de resserrer ces logiques-là. Ensuite, sur les reconduites à la frontière. Derrière, il n'y a pas 40% de diminution des reconduites à la frontière. Mais non, on a les chiffres, donc il ne faut pas raconter ces histoires-là. Donc ce débat-là est faux. Donc derrière...
Chiffres de la police aux frontières.
Bien sûr. Je veux bien qu'on vienne expliquer que Manuel Valls est laxiste, mais alors ça, vous aurez du mal à le vendre à beaucoup de monde.
Alors, hein. Christian Chetel, le maire UDI de Janvry, il en pense quoi du droit du sol? Est-ce qu'il faut revoir effectivement les règles?
Mais sincèrement, ce que je trouve, c'est que ce débat est consternant. Et que ça manque d'ambition pour la France, comme j'ai jamais vu, quoi.
Pourquoi?
Ben, moi, je sais que j'ai une mère qui est arrivée en France, à moitié mexicaine, à moitié espagnole, naturalisée. Elle a été élue conseillère municipale pendant 24 ans et élue maire. Et je pense que c'est ça, la France. Et que ce que j'aimerais, c'est qu'enfin quelqu'un dise on va codifier l'adhésion aux valeurs de la République. Pas une espèce de truc de boutiquier ou d'épicier à dire 3 ans, 5 ans, 6 mois, il est arrivé, pas arrivé.
Mais comment on peut le codifier, ça?
Le vrai débat et la vraie ambition, c'est celle-là, c'est d'essayer de se dire tu adhères aux valeurs de la République, celle-là, c'est celle-là qui compte.
Bien sûr.
Et que tu y sois depuis 2 ans, 3 ans ou 10 ans, ça n'a aucune importance.
Mais d'accord.
Non mais alors justement, comment on le valide, ça?
Pas d'automaticité, une adhésion. Mais comment une adhésion.
Mais ça existait,
le fait de respecter les règles d'un pays.
Mais sur les adhésions à la communauté nationale. 18 ans, pas français.
Non, mais les gens, je vous ai entendu, mais à chaque fois, vous revenez à une espèce de truc de petit calcul, enfin, encore une fois, de comptable. Et on est sur des valeurs. Et moi, je suis pas breton ni normand, je suis français. Et on va pas revendiquer des espèces de calculs franchouillards alors qu'on parle de France. Et moi, je vous invite vraiment à essayer de trouver comment on peut faire. C'est pas uniquement un truc, pas d'automatisme ou automatisme. C'est un truc où il y a une vraie volonté. Alors, c'est vrai que ça passe par la langue, ça passe par un certain nombre de choses. Mais une adhésion, moi, je vous dis.
Adhésion pays, un peu de patriotisme.
C'est pas un gros mot.
Mais non, mais je pose la question parce que je voudrais simplement citer l'exemple américain. C'est un pays communautaire. Enfin, les États-Unis sont un pays communautaire. Il y a plein de communautés qui, d'ailleurs, vivent les unes à côté des autres et pas souvent ensemble. Et pourtant, ce qui les unit toutes ces communautés, c'est un vrai attachement. C'est ça qui est frappant quand on va aux États-Unis, un vrai attachement. États-Unis, il y a un patriotisme. On a le drapeau américain, même si on est mexicain, si on est afro-américain, si on est WASP. Comment on pourrait mettre ça en France?
Mais écoutez, moi, sincèrement, je ne peux pas ne pas pleurer quand j'entends la Marseillaise. Et ceux qui la sifflent, il y a une différence d'adhésion. Je veux dire, le drapeau français, c'est pas honteux. Et le jour de l'élection d'un président de la République, il faut que ça soit
un drapeau français
qui sorte.
D'appartenance à la même patrie.
Nos auditeurs aient en tête, aujourd'hui, quand on fait des cérémonies de naturalisation, moi j'en fais sur Argenteuil, des cérémonies de naturalisation, il y a un discours du maire, et moi je rappelle, je suis avec mon écharpe, je rappelle les valeurs de la République, je donne le cadre. Ensuite, la Marseillaise, tout le monde se lève, la Marseillaise, le drapeau de la République, il y a une photo de fête devant le drapeau de la République, et chacun est dans cette dynamique-là. Je veux dire, tous ceux ne sont pas obligés de demander la nationalité française. D'ailleurs, il y a plein de citoyens dans ce pays qui ne sont de nationalité étrangère, qui ne demandent pas la nationalité française. Bien, donc, et moi, ce qui me stupéfie aujourd'hui sur le fond, dans les propos de Jean-François Copé, c'est que des jeunes qui ont passé 18 ans dans ce pays, qui sont passés par l'école, qui est une énorme, même malgré ses difficultés, qui est une énorme machine d'intégration. Eh bien, aujourd'hui, ces jeunes à 18 ans, mais ils se sentent français.
Tous.
Non, mais moi, j'ai eu l'exemple l'autre fois dans la dernière cérémonie de naturalisation d'un jeune qui a 18 ans, n'a pas fait le choix de prendre sa nationalité d'origine.
Bien. Qu'était laquelle?
Je suis plus en tête, un pays d'Asie de mémoire. Derrière cette personne, quelques années après, un Indonésien, voilà, quelqu'un d'origine indonésienne. Et quelques années après, vers 27-28 ans, finalement, il a fait la demande de nationalité française. Bien. Et je discute avec lui parce que après, il y a un temps d'échange,
il y a un buffet, quoi.
Et un petit pot.
C'est ça.
Et du coup, il vient me voir, il me dit, voilà, finalement, à 18 ans, pour des raisons liées à mon histoire familiale, j'avais fait le choix de, parce que à 18 ans, le jeune peut choisir de pas prendre la nationalité française. Et finalement, à 26 ans, après avoir mon pays, ma réflexion, où est-ce que je travaille, où est-ce que j'ai envie d'inscrire ma vie, j'ai fait le choix de la nationalité française. Donc, il y a quelque part une logique de choix, même à 18 ans, et même plus tard.
Non.
Donc, ça veut dire que la réflexion, à un moment donné, on l'a là. Donc, derrière, on doit être au-dessus de cette logique-là, parce qu'on parle quand même de la France.
Philippe Doucet, si vous dites qu'il y a une logique de choix, ça veut dire que vous n'êtes pas contre le fait que je propose d'interdire l'automaticité, puisque vous dites vous-même qu'il y a une logique de choix.
Attends,
c'est comme
Devenir français,
c'est une adhésion à des valeurs, à une histoire, à une culture, sans renier d'ailleurs la sienne. Mais je trouve que justement l'automaticité ne donne pas cette adhésion. C'est comme la toute gratuité ne donne pas une adhésion. Donc autant demander à ces personnes de vouloir devenir français.
Ça a déjà été le cas, c'était sous Pasqua, cette démarche volontaire. Je crois que quasiment tous les dossiers étaient acceptés, donc ça n'a pas changé grand-chose.
Mais c'est important, ne serait-ce que pour celui qui veut devenir français.
Ce qui me gêne là-dedans, c'est que tu biaises le débat.
Et de le faire de manière automatique.
Le sujet de Jean-François Copé sur le fond et le vôtre est franchement par rapport aux enjeux, ça me désole. Vous êtes parti dans une course derrière la thématique du Front National.
On peut parler d'immigration sans parler du FN.
Ça, on peut parler d'immigration, mais de maîtrise des flux migratoires.
Non, mais là, c'est pas un problème. Là,
c'est ça, c'est vraiment l'élément de langage de la rue Solferino.
Mais non,
je pas très imaginatif.
Derrière, c'est pas ça le sujet.
Ils n'ont pas assez des éléments de langage.
Donc,
c'est vrai que.
Moi, je suis pas rue Solferino. Je suis Gabriel Perrier Argenteuil. Donc, du coup, dans cette affaire-là, c'est pas ça le sujet. Quand t'es dans cette logique-là, c'est pas à l'enjeu des échelles du pays.
Un dernier mot, Christian Chatel, le maire de Janvry.
Juste, c'est parce que je crois qu'il y a quelques éléments qui font la France et qui réunissent et qui fédèrent les gens. La République, elle est née à Valmy. C'est vrai qu'à mon avis, on a fait une énorme erreur quand on a supprimé, par exemple, la conscription.
Bah, bien sûr.
Parce que c'était un élément fédérateur.
Le service militaire.
Le service militaire, tout à fait.
Le service national.
Le service national.
Mais ça aurait pu être civique.
C'était essentiel parce que c'est une sorte de passage initial.
C'est ce que nous proposons concrètement, d'ailleurs.
Je ne vous ai pas interrompu, cher collègue. Mais donc, juste dire que, par exemple, la conscription, c'était un élément, un passage initiatique nécessaire et un espèce de melting pot pour tout le monde. On l'a supprimé. En réalité, on a supprimé tous les passages qui faisaient qu'on disait « je suis français, je me mets au garde-à-vous ».
Messieurs, dans un instant, les affaires courantes, il y a du nouveau sur l'écotaxe. Info RMC, je vais vous les donner dans un instant, vous allez pouvoir commenter. Éric Brunet à mes côtés, puisqu'à 13h, Éric, on va parler de quoi ? Bonjour.
On va parler d'un sujet. Moi, je suis un fou de liberté. Vous venez de parler de Valmy. Vous allez me détester, mais tant pis. Chaque Français doit être libre de souscrire à l'organisme de sécurité sociale de son choix, la Cour européenne de justice. Dans vraiment l'anonymat le plus total, vient de rendre une décision très importante, puisqu'elle elle a reproché à la sécurité allemande, la BKK, d'avoir mis sur son site internet, attention, si jamais vous quittez la sécu allemande, vous aurez des problèmes financiers, ça va être compliqué pour vous, disait la sécu à ses concitoyens. Bon, elle a dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il y a une liberté de choix totale en Europe désormais.
Mais c'est
vous êtes
intéressant
français,
de quitter la sécu.
Eh ben, un peu, mon neveu.
T'es capable de le démontrer, ça.
Un peu, mon neveu.
T'es capable de le démontrer.
Il y a des Français qui ont quitté la sécu il y a plusieurs années, qui expliquent aujourd'hui que c'est un peu un parcours du combattant, mais que le résultat, eh bien, la consultation à 23€ chez le généraliste, elle est mieux remboursée par d'autres sécurités sociales. En tout cas, je sais pas s'ils disent vrai, mais on aura l'humilité de les écouter, ceux-là.
Quittez la sécu, dit Éric Brunet, vous êtes d'accord avec lui ou pas?
Je dis, soyez libre de faire ce que vous voulez. Soyez libre. Liberté, égalité, fraternité.
La liberté, avec Éric, ça sera après 13h au 32-16. À tout à l'heure, Éric Brunet. Dans un instant, les affaires courantes, écotaxe, rythme scolaire, on va parler de GAD et du budget, les impôts qui continuent d'augmenter. À tout de suite.
RMC, les grandes gueules. RMC, le conseil des grandes gueules, les affaires courantes.
Allez, c'est parti. Aujourd'hui, dans le conseil des grandes gueules, nous avons un petit nouveau, le maire UDI de Janvry, dans l'Essonne, Christian Chatel. Tout se passe bien, Christian?
Tout va très bien.
Philippe Doucet, le député maire socialiste d'Argenteuil, et puis Geoffroy Didier, le conseiller UMP régional Île-de-France et secrétaire général adjoint de son parti. Dans les affaires courantes, on a des infos, les toutes dernières infos concernant l'écotaxe. Après la manifestation hier, notamment des agriculteurs, ce sont des infos RMC que Annabelle Roger vient de me donner. Et visiblement, on va revoir quand même à la baisse l'écotaxe et les Bretons seront bien loti. Par exemple, le gouvernement envisage de réduire de moitié l'écotaxe pour les Bretons. Leur route principale, la nationale 164, les Bretons et ceux qui vont en Bretagne connaissent, qui traversent donc la région, sera exonérée. Tout comme la collecte de lait, une mesure qui concerne toute la France, mais la Bretagne est la première région productrice de lait en France. Disons, qu'est-ce qu'on les soigne, les Bretons, monsieur Chatel, hein? On a raison?
Oui, à mon avis, les Verts vont demander un bonus-malus pour qu'ils puissent acheter des postiers bretons et remettre des attelages pour revenir jusqu'à Paris. Franchement, la France a plusieurs vitesses où tout d'un coup la Bretagne va être aidée, il faut que les Franc-Comtois se révoltent. Et puis après ça, ce sera les Basques, les Bretons, les Malins et les Marseillais. Ouais, enfin,
la Bretagne,
terminer.
Géographiquement, est plus éloignée que d'autres régions, donc forcément a besoin du transport routier.
La France a plusieurs vitesses, ça n'a jamais été bon.
Donc c'est pas une bonne idée.
Et c'est pas exactement la France que j'aime, celle-là.
Philippe Doucet, on les soigne, les Bretons, au gouvernement?
Le sujet, il n'est pas là, on ne soigne pas plus les Bretons que les autres. C'est juste un problème sur... d'où ça vient cette écotaxe? C'est le Grenelle de l'environnement 2007 qui se décline et que donc on a trouvé en arrivant. Cette taxe est pour les camions de plus de 3,5 tonnes circulant sur le réseau principal hors autoroute à péage. Or, la caractéristique de la Bretagne, c'est que la grande voie, parce que pendant des années, je crois que ça date de Giscard d'Estaing, il n'y avait pas d'autoroute en Bretagne, on ne trouvait pas de société pour financer, de société privée pour financer l'autoroute, et finalement, c'est Giscard d'Estaing qui a financé la voie rapide, qui est une autoroute qu'on ne comporte pas le nom. Et du coup, cette autoroute, pas péage, qui est pas vraiment une autoroute, c'est en fait l'axe, la dorsale de la Bretagne. Et donc effectivement, elle est soumise à écotaxe. Alors que quand vous faites Marseille-Paris, eh bien vous êtes sur autoroute à péage, donc il y a pas d'écotaxe. Ouais, mais... Donc le problème, c'est pas la France à plusieurs vitesses, bah, c'est la France à plusieurs vitesses sur les problèmes autoroute non autoroute. Donc c'est le problème.
Enfin, il y a eu 12 ministres.
Il y avait 12 ministres au chevet du plan Bretagne.
D'accord. Bon,
donc, dont des gens qui s'appellent Le Drian, dont Maryse Le Branchu, qui est ministre aussi élu bretonne, dont Stéphane Le Foll qui fait attention également à cette région. Jean-Marc Ayrault, alors on va dire que Nantes c'est pas en Bretagne, mais enfin historiquement.
Nantes c'est pas en Bretagne, et Stéphane Le Foll, je crois qu'il est dans la Sarthe. Mais t'es pas encore la Sarthe en Bretagne.
Historiquement, historiquement, Nantes c'est le duc de Bretagne était à Nantes.
Oui, historiquement. Non mais bon, donc ça c'est pour expliquer à nos auditeurs pourquoi on en est là et qu'il n'y a pas de situation là-dessus. Le vrai sujet de fond. On a deux sujets dans cette affaire-là.
C'est une bonne idée, cette écotaxe. Les grandes gueules. Philippe Doucet, député socialiste. Non. Dites-moi, c'est oui ou non une bonne idée?
Donc, je.
Oui ou non?
Non, mais attendez, c'est pas.
C'est si, pas si, oui ou non?
Non, mais attendez.
Je pense qu'on dit c'est pas simple, c'est qu'on peut pas répondre.
On doit pas, on peut pas être dans une logique. La transition énergétique ne peut pas être punitive. C'est ça le sujet. Donc, on a mis ça en place en disant, on fait des taxes pour que finalement il y ait moins de poids lourds et qu'on passe à d'autres systèmes. Sauf que c'est quoi les autres systèmes?
Il n'y a pas d'autres systèmes.
Donc c'est une mauvaise idée.
Donc, c'est en tout cas l'idée. L'idée au départ est bonne, l'application me paraît à revoir.
C'est marrant parce que l'idée elle vient de Nicolas Sarkozy, l'application elle vient de Jean-Marc Ayrault. Formidable.
C'est pas CQFD parce que derrière l'histoire de l'écotaxe, c'est pas été inventé là, c'est dans le principe du Grenelle de l'environnement. Donc tu t'en sors à faire une pirouette, mais la pirouette ça marche pas non plus.
C'est la raison pour laquelle, je vous dis pour ma part que oui, je suis pour le principe de l'écotaxe. Non, faisons attention en ce moment, parce qu'il y a déjà une colère fiscale dans ce pays. Une colère fiscale dans chacun des foyers. Il faut quand même qu'on sache que certains de nos compatriotes sont obligés de faire des emprunts aujourd'hui pour payer leur impôt sur le revenu. Il faut le dire.
Tu ne sors pas les éléments de langage de l'UMP, là. Tu ne sors pas les éléments de langage de l'UMP.
Mais ça, c'est du terrain que je vis.
Non, mais bien sûr. Mais pourquoi nous, on est sur Mars? Attends, on n'est pas sur Mars non plus.
Donc, vous le savez aussi.
D'accord.
Donc, ça vous fait ni chaud ni froid.
Geoffroy Didier, si je comprends bien, c'est une très bonne idée, mais elle est tellement bonne qu'il faut jamais l'appliquer, parce qu'elle aurait dû être appliquée en 2009, elle l'a pas été, elle va être appliquée en 2014, si c'est même pas sûr, parce qu'on est en train de revoir, donc c'est une tellement bonne idée qu'il est urgent de jamais l'appliquer.
Je suis d'accord sur le principe, je dis juste qu'il faut faire une pause fiscale. Une pause fiscale. Je sais bien que ça, c'est le fantasme de la gauche, mais qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y a 12 milliards d'impôts en plus en 2014.
Oui. On en parle avec 600 milliards de dettes que tu nous as laissé
aujourd'hui. Non à l'écotaxe aujourd'hui. Et je suis sensible à l'argument de certains agriculteurs bretons, étant breton moi-même, j'y suis encore plus sensible, qui disent, attention.
T'es pas français, toi. T'es français.
Je suis avant tout français, mais je suis aussi breton.
J'ai eu peur un instant.
Comme mon nom ne l'indique pas.
Je crois Didier est breton.
Je suis sensible à l'argument.
Jean-François Copé va peut-être t'enlever la nationalité française à la vitesse où tu vas, toi. Donc, c'est juste à partir de quand le duché de Bretagne, c'est avant 1400. On fait attention, hein.
Et donc, je suis sensible à l'argument de l'agriculteur breton qui nous dit attention, c'est aussi la ménagère qui va payer au final, avec une augmentation allant jusqu'à 50 centimes pour un panier d'un kilo de tomates françaises. Attendez, c'est ça quand même la réalité sur le terrain. Hein.
Christian Chautel. Comment tu fais sur la transition énergétique?
L'élargissement de la fiscalité, je veux bien, mais ça reste de la fiscalité.
Christian Chautel.
Non, mais chez le petit nouveau, c'est normal, je les écoute.
Et puis Doucet, il a une grosse voix, il faut s'imposer.
Mais on est tous d'accord pour dire que la mule est hyper chargée et que là où on a des boîtes qui marchent mal, si en plus on remet une taxe sur la taxe, sans alternative. C'est-à-dire que c'est comme les bagnoles, on vous dit on va mettre pour les 4x4 6 ou 8 000 euros, mais quand on dit mais qu'est-ce que j'achète d'autre si j'ai besoin de tirer ma remorque moi avec mes animaux par exemple, c'est mon cas, ah ben ça n'existe pas.
Ouais, donc en fait c'est punitif.
Ben, c'est uniquement punitif.
Et c'est pas forcément incitatif.
Quand on est punitif de temps en temps, ça va, mais comme en ce moment on a l'impression que c'est de la fiscalité à la Kalachnikov, c'est vrai qu'à un moment les gens sont par terre. Donc il y a une espèce de saturation que plus personne ne supporte. Donc les Bretons sont plus sanguins en ce moment, mais encore une fois, moi je me permets d'insister,
Heureusement, les Bretons ont une autoroute gratuite alors que tous les autres la payent.
C'est vrai.
Et donc, ils avaient...
Ils vont nous appeler, je pense, au 32-16, les Bretons.
J'adore les Bretons, ma grand-mère.
Vive la Bretagne.
Oh. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de péage. Ils n'ont pas de péage.
Ils n'ont pas de péage. Les autres en ont. Et alors, en plus, on devrait nous dire, il y a une fiscalité à géométrie variable. Ça, c'est pas bon et c'est pas républicain.
Donc, c'est pas forcément la bonne méthode.
Et quant à l'écotaxe en elle-même, encore une fois, trouver une alternative, et c'est un bel impôt. Mais s'il n'y a pas d'alternative, c'est purement punitif.
Le vrai sujet, c'est qu'il faut qu'on arrive dans ce pays à se poser collectivement pour faire une transition énergétique qui ne soit pas dans un mode punitif. Voilà, c'est ça le sujet.
D'accord.
Parce que je veux bien entendre l'histoire du 4x4, mais enfin, tous ceux qui sont sur la porte-maillot dans les 4x4 dans la colle, ils ne traînent pas de carriole.
Et,
donc,
il y a
quand même
un problème.
Donc, il y a
autres,
les autres. Donc, en tout cas, il faut qu'on ait ce débat-là. C'est qu'il faut qu'on change de modèle. C'est comment on trouve les chemins pour changer de modèle. Donc, bon, mais on a déjà eu le débat sur le diesel ici. Donc, c'est le même problème.
Dans les affaires courantes, tiens, on va rester en Bretagne. Décidément, l'actualité est très bretonne aujourd'hui. Il y a cette image quand même assez terrible qu'on a vu des salariés se battre entre eux, hein, appartenant à la même entreprise, l'entreprise GAD. Vous le savez, il y a un abattoir du groupe qui est fermé à Lampiol, et puis il y en a un autre abattoir qui est maintenu, c'est celui de Josselin. Donc il y en a un qui est dans le Finistère, l'autre dans le Morbihan. Ceux du Finistère sont venus voir ceux du Morbihan. Ils ont en plus vu qu'il y avait des Roumains qui étaient employés pour transférer les activités de Lampiol à Josselin. Ils ont pété un câble et ils ont quasiment manifesté, et même il y a eu des violences physiques contre les salariés de Josselin. Il y a des CRS qui sont sur place actuellement. Est-ce que c'est vraiment le symbole qu'aujourd'hui tout peut exploser à tout moment? Il y a une tension sociale dans ce pays, à Gade comme ailleurs, Geoffroy Didier.
Oui, je crois que vraiment il y a un vrai potentiel de colère sociale. Il y a, pardon de cette expression, mais une sorte de jacquerie fiscale aussi. Et on sent bien qu'il y a une colère de la base. Et pourquoi est-ce qu'il y a une colère de la base? Évidemment parce qu'il y a une crise économique mondiale. Évidemment parce que la situation n'est pas facile. Évidemment parce qu'il y a des zones de notre pays qui sont plus en tension que d'autres. Mais aussi parce que le pouvoir en place ne hiérarchise pas les priorités. Et de voir, comme on l'a vu ce week-end, François Hollande s'adresser solennellement aux Français à cause d'une famille d'immigrés clandestins, alors que la priorité, ce sont précisément les ouvriers bretons, ce sont les salariés de Goodyear, ce sont les salariés des abattoirs GAD. Bref, on ne hiérarchise pas les priorités et on a vraiment l'impression...
C'est une entreprise privée, je veux dire, François Hollande, il peut pas...
Non, mais attendez, on a... Tu vas pas nous ressortir tous les éléments de langage, de l'UMP, là, faut arrêter, là, attends.
Ce ne sont pas les éléments de langage, c'est la réalité.
Il nous fait la messe, là.
Mais la colère des ouvriers bretons, vous pensez que ce sont des éléments de langage de l'UMP, Philippe Doucet?
Non, mais c'est pas ce que
vous me dites.
C'est pas ce que je te dis, je te parle, là, quand tu dis sur l'histoire de Hollande.
C'est ça que vous me dites,
c'est pas ce que je te dis. Donc, ne biaise pas ce que je te dis. Moi, ce que je dis par rapport à ça, donc, je suis pas sûr que là, on prenne ça dans une logique de colère. Parce que dire la colère, ça veut dire que ça s'organise sur quelque chose. Et aujourd'hui, on a plus des logiques éclatées. Bon, là, c'est triste, là. Le fond de l'affaire, moi, à titre personnel, je ressens de la tristesse parce qu'on a des ouvriers qui ont perdu, ou qui sont en train de perdre leur emploi sur un des deux abattoirs qui est fermé, et qui viennent finalement demander à ce que le plan social soit meilleur, et finalement ils se trouvent confrontés à d'autres salariés qui, dans un autre abattoir, ont la chance de garder leur emploi.
Il y a des Roumains en plus intérimaires qui sont là.
Donc on a de la tension, parce qu'il y a du malheur, parce qu'il y a de la tristesse. C'est pas un mouvement organisé, c'est plus une logique de tristesse, de douleur, de ce que sont aujourd'hui, effectivement, la manière dont la filière agroalimentaire bretonne est en train de souffrir, y compris avec nos problèmes de l'Europe, etc. Donc c'est ça le sujet. Donc moi, c'est plus de la tristesse quand je vois ça. C'est plus de la tristesse que je ressens.
Vous êtes un acteur public. Vous êtes
non, mais on est un acteur... Non, mais attends,
vous avez tous les pouvoirs depuis 18 ans, mais, et vous, vous répondez pas à la tristesse.
On n'a pas encore le pouvoir sur le... Non, mais d'accord.
Sur le port, vous avez le pouvoir.
Sur le monde économique, dans un univers libéral, c'est un peu plus compliqué. L'économie de marché, c'est un peu compliqué à gérer.
Le monde bourse sert à rien.
Alors, il sert à quelque chose. La preuve, c'est qu'on va même en sortir peut-être sur Goodyear.
Christian Schuttel, oui, il parle fort.
Il parle très fort.
Alors, Christian Schuttel.
Pour moi, c'est que de la désespérance. Et le premier acte de désespérance, c'est de dire on ne croit plus en vous, messieurs.
ni aux politiques, ni aux gens qui leur parlent, ni à des discours, excusez-moi messieurs, comme ceux qu'on peut même entendre là, c'est des mots. Et pendant ce temps-là, les types, c'est tout simplement un problème de lendemain et de, à manger, et qu'il y a une vraie désespérance. L'idée d'aller...
Enfin, vous tenez le même discours que nous, hein. Je veux dire, on n'est pas, il n'y a pas vous d'un côté et nous de l'autre.
Non,
hein.
Non, mais je crois qu'il faut qu'on soit très attentif à... on se fout de Montebourg ou de qui que ce soit dans une affaire comme ça. Tous les jours, on entend sur RMC et ABFM des licenciements, des boîtes qui ferment. Mmh. J'étais désespéré hier d'entendre les 160 salariés des Diards. Mmh. Est-ce que vous imaginez quand même que toutes ces boîtes-là qui étaient des fleurons disparaissent?
Oui, mais en même temps, il y en a d'autres qui naissent. On ne peut pas non plus s'accrocher à des choses. Et Diard n'a peut-être pas au plus aussi su s'adapter.
Et Diard, c'était provoquant.
Mais je veux dire, peut-être aussi qu'il faut voir aussi notre façon d'aborder la chose. Il y a une activité qui cesse avec des emplois qui sont supprimés, c'est bon, terrible. Et en même temps, à côté, il y a des activités qui naissent avec des emplois qui se créent. Vous parlez des Diard, qui allait chez Diard encore?
Plus personne, ils sont tous en Belgique. Diard a réouvert en Belgique sous une autre
exactement
forme. Mais typiquement je trouve que l'équilibre entre la création d'emplois est pas bon, donc faut pas me dire
c'est ça, c'est l'équilibre.
Faut pas me dire qu'il y a des boîtes qui réouvrent. C'est vrai que quand on voit le fonctionnement des entreprises, moi je suis un tout petit micro chef d'entreprise dans la vraie vie, et ben les charges qui tombent de plus en plus, elle noie la plupart des gens. Et si en plus on est sur une concurrence naturelle de la mondialisation où on nous en remet des couches, et l'écotaxe en fait partie, eh bien on crève. Donc c'est vrai que il faut faire attention que telle boîte, quand on voit la CGT avec Titan qui serait capable de couler Titan,
non, la CGT pour l'instant dit qu'ils sont plutôt d'accord avec ce que propose Titan,
hein. Enfin,
quoi Montebourg a servi quelque chose, parce que Montebourg recevait ce matin la CGT, il s'est montré semble-t-il convaincant pour le moment.
On les verrait capables de couler un bateau parce que leur propre bateau coule, et ça c'est quand même extrêmement dangereux.
Tiens, vous gardez la main, Christian Schottel. Ouais. Les rythmes scolaires, vous êtes fait connaître parce que vous avez dit « Moi, je ne veux pas appliquer sur ma commune de Genvry dans l'Essonne la réforme des rythmes scolaires, alors qu'elle doit obligatoirement s'appliquer à toutes les écoles françaises à partir de 2014. Il y avait ceux qui étaient volontaires en 2013, en 2014, c'est pour tout le monde. Ouais. Vous dites non, donc vous vous mettez hors la loi.
Non, hors décret.
Oui.
C'est pas une loi, c'est un décret. Donc il y a une petite nuance, moi,
encore une fois... Sur le fond, pourquoi vous dites non à ça?
Parce qu'elle est sans courage, sans ambition et sans financement. Encore une fois, le courage, ça aurait été que les 20 semaines de congés que les gosses ont, là, ça y est, ils sont repartis pour 15 jours, eh bien, on les réduise un peu et qu'on étale les horaires là-dessus, et là, on pouvait faire de belles choses, plutôt que à nouveau concentrer pour obéir au lobby de Pierre-Paul-Jacques qui voulait pas qu'on touche aux vacances. Donc, je ne veux pas faire...